fut à l'école déjà, qu'on fit de nous des concurrentes. On se regardait chien et chat, on détestait les redoublantes. Souffre, douleur ou bien faillotte, on se poussait toujours plus haut. On s'arrachait les bonnes notes, on pleurait devant le tableau. On aurait pu rester Frangine, ça nous aurait gagné du temps. Au coude à coude, j'imagine qu'il n'aurait pas fallu longtemps pour qu'on soit toutes aussi bonnes, malgré les pionnes et les parents. Ensuite, en face des garçons, commença la grande offensive. On se fabriquait des façons, des rendez-vous sur l'autre rive. Et grande bringue ou blanche neige, c'était à qui amènerait tous les boutonneux du collège à l'accompagner sur le quai. On aurait pu rester Frangine, ça nous aurait gagné du temps. Bras dessus, dessous, j'imagine qu'on aurait de ces débutants avant que la vie les assomme, pu faire des hommes, pas des enfants. Un peu plus tard, c'est la beauté qu'on nous érigea en barrière. On se retrouvait insulté si on n'était pas la première. Nos amitiés faisaient sourire, fallait nous crêper le chignon. Et tout ce qu'on pouvait se dire n'était que fadaise ou chiffon. On aurait pu rester Frangine, ça nous aurait gagné du temps. Main sur l'épaule, j'imagine qu'on aurait pu, se regardant, voir qu'on était toutes assez belles, et même celles qui ont pas le temps. C'est tout pareil dans nos métiers, on nous oppose et on nous monte en épingle pour mieux montrer qu'on se trouve en dehors du compte. Pour peu qu'on dépasse la tête, on est toujours une exception, chacune sur notre planète, ce qu'on a pu tourner en rond. Si on se retrouvait Frangine, on n'aurait pas perdu son temps. Unissant nos voix, j'imagine qu'on en dirait 20 fois autant, et qu'on ferait changer les choses, et je suppose aussi les gens, et qu'on ferait changer les choses. Allez, on ose, il est grand temps.
Radio Libertaire 89.4, vous êtes à l'écoute de l'émission Remue-Ménage féministe, comme tous les mardis de 12h30 à 14h30. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur nos blogs, sur Blogspot et sur Mixcloud. Nous sommes le mardi 17 juin 2025. Bonjour Catherine, bonjour nos invités.
Bonjour Elisabeth, bonjour à toutes
et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons Sandra Travers de Faultrier, docteur en droit, membre du collectif du respect de la personne et co-autrice du livre « Les marchés de la maternité » sous la direction de Nicole Athéa, gynécologue, endocrinologue, et Martine Segalen, ethnologue, livre Paris, paru aux éditions Odile Jacob. Bonjour Sandra.
Bonjour Catherine.
Et aussi dans le studio, Marie-Joseph De Villers, militante féministe, coprésidente de la SIAMS, Coalition internationale pour l'abolition de la maternité de substitution, appelée aussi GPA. Bonjour Marie-Joseph.
Bonjour Catherine.
Est-ce que vous pouvez brièvement, en quelques mots, présenter vos associations, c'est-à-dire le CORE et la SIAMS?
Oui.
Alors, commence par Sandra.
Alors le CORE, c'est le collectif pour le respect de la personne. C'est un collectif, donc une association qui a été créée en 2014, qui rassemble des personnes qui ont décidé de mettre en commun leurs compétences pour, et leur expérience, au service de la promotion des droits et du respect de la personne humaine dans son intégrité physique et psychique, à la fois en France et dans le monde. Alors, plus particulièrement, ces derniers temps, le corps s'est orienté vers la lutte, en quelque sorte, contre la gestation pour autrui, constitutive d'une violence faite aux femmes et d'une atteinte à, tout simplement, à la dignité de la femme. Voilà.
Bien, et Marie-Joseph de Villers, si vous voulez bien présenter la CIAMS.
Avec plaisir, bien sûr. Alors la CIAMS, coalition, comme tu le disais Catherine, coalition internationale pour l'abolition de la maternité de substitution, c'est une agrégation d'organisations qui sont aujourd'hui au nombre de 50, qui viennent de 17 pays dans le monde, alors des pays aussi loin que l'Australie, le Japon, la Corée du Sud, l'Ukraine, la Colombie, les USA, le Canada, la Suède, le Royaume-Uni, l'Irlande, la Belgique, la France, que je n'oublie pas, l'Italie, l'Espagne, l'Autriche, la Roumanie et dernièrement la Hongrie. Et c'est une organisation, j'insiste, c'est une organisation féministe et en faveur des droits humains. Et notre objectif, c'est de participer à l'abolition de la maternité de substitution, qu'on appelle aussi GPA, gestation pour autrui, mais que nos amis canadiennes, québécoises, ont rebaptisé d'un nom beaucoup plus agréable que ce terme gestation, qui l'ont rebaptisé en grossesse pour autrui.
D'accord, merci.
Tous les enfants qui sont partis le sac au dos par une brume du matin d'avril, j'y voudrais faire un monument. À tous les enfants qui ont pleuré le sac au dos, les yeux baissés sous le chagrin, j'y voudrais faire un monument. Pas de pierre, pas de béton, ni de bronze qui devient vert sous la morsure aiguë de temps. Un monument de leur souffrance, un monument de leur terreur, aussi de leur étonnement. Voilà le monde parfumé, plein de rires, plein d'oiseaux bleus, soudain une griffe d'un coup de feu, un monde neuf, sur un corps qui va tomber, grandit une tache de sang. Mais à tous ceux qui sont restés les pieds d'eau chaude sous leur bureau, en calculant de leur rendement de la guerre qu'ils ont voulu, à tous les crats, à tous les cocus qui vont tripotant dans la vie et comptant, comptant leur écu. À tout cela, je dresserai le monument qui leur convient, avec la schlag, avec le fouet, avec mes pieds, avec mes poings, avec les mots qui colleront sous leur faux pli, sous leur bajou, les marques dentaires.
Radio Libertaire 89.4, vous êtes à l'écoute de l'émission Remue-Ménage féministe, comme tous les mardis de 12h30 à 14h30. Nous sommes le mardi 17 juin 2025. Vous venez d'entendre Joanne Baez, À tous les enfants.
Alors je rappelle que nous recevons aujourd'hui Sandra Travers de Faultrier et Marie-Joseph de Villers qui sont venues nous parler de la GPA. En introduction du sujet qui nous concerne aujourd'hui, je vais lire des extraits du livre « Les marchés de la maternité » dont je parlais tout à l'heure. Dans le chapitre intitulé « Dénoncé par les féministes, adoubé par le marché », il est écrit « Les premières situations dans lesquelles des femmes ont agi comme mères porteuses, entre guillemets, remontent à la fin des années 70 et au début des années 80 et ont lieu aux États-Unis. En 1976, une première femme le fait gratuitement et en 1980, une autre inaugure ce qui devient à partir de ce moment une pratique commerciale. Cette femme, connue sous le nom d'Elizabeth Kane, la première à avoir accepté d'être payée pour donner la vie à un enfant pour ensuite l'abandonner, le regrette peu après, le fait savoir et s'exprime pour l'abolition de la pratique, comme elle en témoigne dans son livre « Birth Mother, The Story of America's Forced Legal Surrogate » paru en 1988. Est-ce que vous pouvez nous traduire le titre « Birth Mother » ?
Oui, on dit « mère de naissance », on dit « mère de naissance », par opposition en fait, à ce que le marché appelle « mère d'intention ». Donc c'est celle qui a donné la vie, c'est celle qui, selon notre culture et nos textes juridiques, est la mère.
D'accord, donc « Birth Mother, the story of America's forced legal surrogate ». C'est depuis l'apparition même des technologies de reproduction artificielle et de leur utilisation dans la maternité de substitution que les féministes ont dénoncé les risques de cette pratique et qu'elles ont informé l'opinion publique des arguments justifiant la nécessité de l'arrêter. Au fondement de ces arguments se sont toujours trouvés les droits humains. Si le marché qui s'est développé depuis à travers et autour de cette pratique fournit à ses bénéficiaires des profits croissants, il ne respecte jamais les droits humains des femmes ni des enfants, mais en pervertit la référence en détournant les arguments féministes. Alors je vais faire un petit aparté à propos des féministes. Je rappelle qu'en 2001, la coordination lesbienne en France, qui réunissait une vingtaine d'associations féministes lesbiennes non mixtes, avait pris position contre la GPA, qu'elle nommait à cette époque le commerce des mères porteuses. Alors je continue ma lecture du livre « Les marchés de la maternité » au chapitre de quelques situations lourdes de conséquences. On peut lire, en 1985, les époux Stern passent une annonce dans la presse pour trouver une femme qui accepte de mettre au monde un enfant pour eux. Marybeth Whitehead accepte pour $10,000 d'être inséminée avec le sperme de M. Stern, dont l'épouse, atteinte d'une sclérose en plaques, craignait des problèmes de santé si elle tombait enceinte. Mais après la naissance de l'enfant, Madame Whitehead se rend compte qu'elle ne peut s'en séparer, sentimentalement parlant, et veut le garder, en restituant l'argent. Une bataille judiciaire s'ensuit pendant quelques années. En 1988, la Cour suprême du New Jersey invalide le contrat et le paiement, le considérant comme, entre guillemets, « illégal », peut-être criminel et potentiellement dégradant pour les femmes. Je cite, hein, c'est entre guillemets, car c'est une citation donc de la Cour suprême du New Jersey. Tout en estimant qu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant que sa garde soit confiée aux époux Stern, dont la situation socio-économique était nettement supérieure à celle de Madame Whitehead. Alors Sandra, j'aimerais que vous exprimiez sur cette affaire et qu'est-ce qu'elle vous inspire ? Parce que c'est quand même assez étonnant qu'on puisse préférer donner un enfant à un couple qui a davantage d'argent plutôt qu'à la mère qui voudrait garder cet enfant.
Alors cet exemple est tout à fait intéressant parce qu'aujourd'hui, c'est encore au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant que l'on valide en France les inscriptions à l'état civil d'enfants nés par ce procédé à l'étranger. Donc cet intérêt supérieur de l'enfant fait partie de ses droits fondamentaux, dits droits de l'homme, etc., etc. Et on voit bien que entre le droit d'une femme, qui est aussi une personne humaine, me semble-t-il, et le droit de l'enfant, comme autrefois quand une femme risquait de mourir en couche et qu'on demandait au père de choisir entre l'enfant et la mère, eh bien là, le droit nous choisit d'entrée de jeu l'enfant à la mère. Voilà, donc je dirais ce problème de l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est quelque chose qui c'est un principe qui est extrêmement fidèle au processus de validation de cette opération. Alors j'ajouterais que la première affaire que vous avez évoquée fait apparaître deux conditions pour que finalement on en vienne à accepter ce genre de situation. La première condition, c'est effectivement l'avancée scientifique. Je dirais c'est tous les travaux qui ont été menés et réussis dans le domaine vétérinaire, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des pratiques vétérinaires qui après ont été adaptées aux humains, mais il faut également un conditionnement, enfin des conditions idéologiques. C'est-à-dire que ça n'est pas par hasard que c'est né aux États-Unis, c'est-à-dire que nous sommes là dans une culture anglo-saxonne où, alors qu'au XVIe siècle, la revendication d'un propre de l'homme était une revendication opposée frontalement au souverain, hein, pour bien faire remarquer que même sans aucune qualité, aucun privilège, aucune fortune, un être humain, eh bien, le souverain ne peut pas dépasser une certaine limite par rapport à lui. Donc c'est ce qu'on appelle le propre de l'homme, sauf que cette notion de propre a glissé vers la notion de propriété, et que dans le monde anglo-saxon, nous sommes devenus propriétaires de nous-mêmes. Alors, je précise que c'est anglo-saxon parce que nous, en France, ce n'est pas le cas, puisque la personne humaine a un droit propre à la protection vis-à-vis de l'État, vis-à-vis d'un tiers qui viendrait l'agresser. Enfin, bon, voilà, c'est tout notre code pénal, hein, en quelque sorte. En revanche, ce propre n'est pas un droit de propriété. Nous ne disposons d'aucun droit de propriété sur nous. Le droit de propriété ne s'exerce en France que sur des choses. Or, il y a ce qu'on appelle en droit une summa divisio entre personne et chose. Donc une personne ne peut pas rentrer dans la catégorie des choses. Sinon, elle devient esclave.
Oui, merci Sandra d'avoir rappelé ce principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. Et là-dessus, cette interprétation de l'intérêt supérieur de l'enfant est souvent super grave. Parce que c'est toujours au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant que des enfants ont été enlevés à leurs parents pour les confier à l'adoption à des personnes socialement et économiquement plus favorisées. Les cas sont connus et ont été largement dénoncés. Il s'agit des enfants aborigènes, par exemple, en Australie. La même chose s'est produite en Nouvelle-Zélande. On a prélevé des enfants groenlandais qu'on a envoyés au Danemark parce qu'on estimait qu'il fallait les civiliser. Et bien, aujourd'hui, quand une mère porteuse entame une action en justice pour garder l'enfant qu'elle a enfanté, eh bien, les juges décident de confier l'enfant à la partie la mieux dotée économiquement et socialement, c'est-à-dire à ce qu'on appelle, nous, des commanditaires. Alors, j'aime bien aussi donner des éléments positifs parce qu'il y a un arrêt récent de la Cour suprême espagnole qui prend exactement le contre-pied de cette attitude, que cette attitude absolument injuste. Alors, qu'est-ce que dit la Cour suprême espagnole dans cet arrêt? Elle dit que le simple avantage économique, l'accès à un niveau de vie plus élevé, le niveau culturel ou éducatif qui pourrait résulter de la paternité revendiquée ne sont pas en eux-mêmes des critères d'attribution de la filiation et ne font pas partie des critères qui doivent être pris en compte pour évaluer et interpréter l'intérêt supérieur de l'enfant lors de la détermination d'une filiation, et il s'agissait d'un cas justement de GPR. Alors voilà quelque chose qui est frappé au coin du bon sens, et où on retrouve vraiment cette considération des personnes, des enfants, des mères porteuses, au nom de la dignité humaine que nous partageons.
Et dans l'autre sens, la justification, la motivation de la Cour de cassation, lorsqu'elle a rendu fin 24 des arrêts finalement favorables à la GPA indirectement, il était dit que, historiquement, la filiation sanguine n'a jamais été un fondement à l'établissement d'une filiation. Et que, donc, on voit bien comment l'interprétation jurisprudentielle en France comment dire, se fonde sur une histoire de la filiation qui, effectivement, hein, la paternité n'a jamais été une histoire de filiation sanguine, mais une histoire de mariage, hein, puisqu'il était réputé père, celui qui était marié avec la femme qui avait accouché. Hein, donc voilà, bon. Et depuis, un certain nombre de dispositions ont été prises qui reconnaissent une filiation juridique, alors qu'il n'y a pas de filiation sanguine. Donc voilà, j'insiste là-dessus parce que finalement, la France va opposer à la considération espagnole l'idée que l'artifice dans la filiation, c'est quelque chose qui est inscrit dans notre tradition.
Mais qu'est-ce qu'il a, le corps des femmes, pour qu'on lui foute jamais la paix? Combien faut-il de cris de larmes pour qu'on lui rende sa liberté? Mais qu'est-ce qu'il y a dans toutes les têtes de ceux qui bossent à la télé, sur les antennes, dans les papiers, toujours à vouloir nous glacer, nous enfermer dans leurs idées, leurs idéaux un peu machos, nous asservir pour assouvir comme des salauds leur libido. Mais qu'est-ce qu'il a, mon corps de femme, pour qu'on lui foute jamais la paix? Est-ce que ce serait vraiment un drame si on le montrait comme il est? Le corps des femmes porte leur âme, porte la vie, porte leur drame. Le corps des femmes, leur seule maison, toujours saccagé sans raison. Je veux savoir, savoir pourquoi c'est toujours les femmes que l'on broie. Et pourquoi toi, tout feu, tout flamme, tu as servi le corps des femmes. De femme, pour qu'on ne cesse de l'emmerder, pour que toujours dans les réclames on m'y invite à le changer. Mais qu'est-ce qu'il a, mon corps de femme, pour qu'on le voit comme un objet? Si vous voulez le fond de ma pensée, mon corps est parfait comme il est. Oui, je suis libre, oui, je suis belle, j'incarne la beauté immortelle, je suis la force irrésistible, la féminité irascible. Ils peuvent parler, ils peuvent juger, ils peuvent détester, cracher, quoi qu'ils en disent et quoi qu'ils fassent. Mon corps de femme est un palace. Corps de femme, porte mon âme, porte ma vie, porte mes draps. Mon corps de femme, ma seule maison, toujours saccagée sans raison. Je veux savoir, savoir pourquoi. Qu'est-ce qu'il a, le corps des femmes, pour qu'on lui foute jamais la paix?
Radio Libertaire 89.4, nous sommes le 17 juin 2025 et vous êtes à l'écoute de l'émission Remue Ménage Féministe comme tous les mardis de 12h30 à 14h30. Nous venons d'entendre la chanteuse Mathilde et sa chanson magnifique « Le corps des femmes ».
Oui, merci Mathilde de nous faire des si belles chansons pour les femmes. Donc, je rappelle qu'aujourd'hui, dans le studio, nous avons Sandra Travers de Faultrier et Marie-Joseph de Filaire pour nous parler de la GPA. Vaste sujet. La majorité des médias français voire même certains politiques qui se disent de gauche, présentent la GPA comme étant une pratique progressiste. Mais quelques rares journaux font exception, comme Charlie Hebdo par exemple. Le 7 mai 2025, ce journal publiait un article de Lionel Lévy intitulé « GPA derrière l'éthique ». Évidemment, l'éthique est écrit entre guillemets. La traite des utérus. Et en sous-titre, oubliez les belles histoires de désir d'enfant et d'égalité des droits, la gestation pour autrui cache des réalités sordides qui bafouent les droits des femmes et de l'enfant. Et donc, en première page, le journal écrit « Le droit français interdit la pratique des mères porteuses et la GPA, mais dans les faits, de plus en plus de personnes y ont recours. Certaines associations estiment à 500 le nombre de naissances issues chaque année d'une GPA à l'étranger à l'initiative de Français. En réalité, beaucoup plus, dans la mesure où il n'existe aucun registre ni aucune traçabilité des GPA dans de nombreux pays fournisseurs, entre guillemets, fournisseurs évidemment, même si c'est la triste réalité. Alors, je demande à Sandra et Marie-Joseph, comment expliquer l'indulgence, la complaisance, voire la coopération du gouvernement français à propos du nombre de ces naissances, alors que la GPA est interdite en France? Ça pose question quand même.
Alors, je dirais d'abord, nous sommes dans une période où l'État s'efface de plus en plus. Je crois que c'est important de le signaler, que et c'est pas une remarque politique, parce que le gouvernement soit de gauche ou qu'il soit de droite, les deux obéissent à cette idée qui a cours actuellement, hein, qui est dans l'air du temps, que moins il y a d'État, mieux on se porte. Or, la loi...
Ceci dit, c'est pas Radio Libertaire,
oui, je sais,
qu'on dira le contraire.
C'est pour ça,
mais là, on parle d'une situation actuelle.
Voilà, absolument. Et donc, il faut pas oublier que la loi, même si on dit qu'elle est l'expression de la volonté générale, donc des représentants du peuple, etc., la loi, le légicentrisme du meilleur général, représente quand même une forte présence de l'État. Or, nous assistons à une sorte de déclin de la loi et à une montée en puissance de la jurisprudence, c'est-à-dire les décisions rendues par les tribunaux. Et je rappelle que le tribunal qui est au sommet maintenant, ce n'est plus du tout la Cour de cassation, mais c'est la Cour européenne, hein, Cour européenne des droits de l'homme, Cour européenne de justice. Voilà, c'est elle qui dicte une jurisprudence qui va après s'imposer à notre droit, à nous.
Or, on sait donc à la population.
C'est ça. Or, on sait depuis toujours que les rois ont toujours lutté contre la volonté des parlements, qui autrefois avaient dans les mains à la fois le législatif et le judiciaire, ont toujours lutté contre ce pouvoir des juges. Donc, la Révolution française a cru mettre un terme à cela. Ça a duré très très peu de temps. De toute façon, le légicentrisme était lui-même combattu par Victor Hugo, qui voyait quelque chose d'inflexible et effectivement quelque chose de très très difficile. Donc, retour à la légitimité du dire le droit par l'interprétation au cas par cas. Hein. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, là encore, sous l'effet, alors on pourrait parler d'impérialisme américain, enfin comme vous voulez, mais sous l'effet de notre perméabilité, on va dire, au droit du plus fort, hein, qui est encore à l'heure actuelle un droit américain, nous avons changé un petit peu les équilibres des pouvoirs et que donc la jurisprudence joue un rôle plus important. Or, la jurisprudence se targue de pouvoir traduire ou sentir le pouls de l'état de l'opinion. Et donc, naturellement, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui fait l'opinion? Est-ce que nous avons affaire à une opinion manipulée, à une opinion brute et nature?
Opinion qui a été bien informée.
Et exactement. Oui. Ce qui est certain, c'est que dans le cas de la GPA, nous aboutissons aujourd'hui à une sorte de, pas légalisation, mais de, par la jurisprudence, de légitimation, en quelque sorte, alors même que le débat public n'a jamais eu lieu. Et il n'a pas lieu, ce qui est une violation, je dirais, du principe démocratique et notamment du recours à l'Assemblée nationale. Donc voilà, je ne dirais pas qu'il y a un gouvernement des juges, hein, je ne rentre pas du tout dans ce combat, hein, qui existe et qui mérite d'être abordé, mais je remarque simplement que par le biais de la jurisprudence, qui se trouve à la fois obligée d'absorber ce que disent les décisions européennes, et en même temps par le biais de traités internationaux qui obligent, par exemple par le système de l'exéquature, un tribunal français à intégrer ce qu'un juge étranger a pu intégrer dans un jugement. Donc la jurisprudence française est contrainte en quelque sorte, hein, d'accueillir ce droit qui n'est pas notre droit.
Ouais, voilà. Donc c'est comme ça qu'on contourne cette interdiction.
En tout cas le débat. On contourne le débat public, oui, c'est certain, voilà. Parce que la population ne sait pas.
Alors, c'est très intéressant, Sandra, ce que tu dis là sur le poids de l'idéologie qui viennent de l'Amérique du Nord. Moi, ça me cette question me fait penser à deux choses. Premièrement, ce qui m'a beaucoup frappé moi quand j'ai commencé à étudier la question de la GPA, c'est que les décisions qui sont prises au niveau gouvernemental sont largement influencées par des histoires de valeurs que promeuvent, qui sont des valeurs résidentes dans chaque continent, des nations. Alors, par exemple, aux États-Unis, ce qui est vraiment valorisé, c'est le droit individuel et puis la libre entreprise. Et à ce niveau-là, la GPA devient naturellement commerciale. Alors, en Europe, on a beaucoup de chance, enfin, c'est une façon de parler, parce que nous avons connu les horreurs du nazisme, et que pour nous, la dignité humaine, c'est ce qui passe absolument avant tout. Et ça, c'est au cœur, c'est dans les premières lignes de notre traité européen, c'est ce qui nous relie, la dignité humaine. Et c'est en raison de cette approche de la dignité humaine que la GPA est interdite dans la plupart des pays. Après, nous avons un troisième type d'approche, c'est l'approche en fait du Royaume-Uni et disons de tous les pays qui ont été ou sont reliés à la couronne anglaise, c'est l'empirisme. Dans la mesure où la GPA existe, eh bien, encadrons-la. Voilà, c'est ce qui se passe en Angleterre, la loi est encadrée. Mais aussi, deuxième point, c'est que dans les contacts que nous avons avec les décideurs politiques ou avec le grand public, il y a une espèce d'a priori, c'est que d'emblée, décideurs politiques ou bien personnes que nous côtoyons ou bien membres d'organisations des droits humains, d'emblée, ces personnes, sur le sujet de la GPA, se positionnent du côté des commanditaires. Ces pauvres personnes, qu'elles prennent en fait en considération, avec un système d'empathie un peu narcissique, où elles se mettent vraiment à défendre exclusivement la position des commanditaires. C'est au nom de ce terrible fléau de l'infertilité, au nom de l'impossibilité des gays à obtenir par eux-mêmes un enfant. Voilà, et c'est ce que défendent la plupart, en fait, d'emblée, qu'il s'agisse de femmes, qu'il s'agisse d'hommes, eh bien, on a ce biais de soutien aux commanditaires. Et ce biais fait que, immédiatement, la femme qui va donner naissance à l'enfant et l'enfant qui va en naître sont effacés du paysage. On n'en parle pas, on prend ça comme argent comptant. Une femme, eh bien, elle met au monde un enfant, ben, c'est pas une histoire, voilà. C'est sa liberté, on n'en parle plus, et l'enfant, ben, il sera heureux. Voilà. C'est ce narratif qu'on retrouve absolument partout. Et notre travail à nous, vraiment, SIAMS, Coalition Internationale pour l'abolition de la maternité de substitution, c'est faire comprendre ce qu'est la réalité de la GPA. De la grossesse pour autrui, de la maternité de substitution, comme qu'on l'appelle, c'est de faire comprendre et de changer le positionnement et de dire non, on n'est pas là pour défendre les commanditaires, donc les clients, on n'est pas là au service du marché, parce que c'est ce que vous êtes en train de faire en défendant les commanditaires et les besoins pour une partie créés par le marché. On n'est pas là pour ça, on est là pour vous montrer la réalité de la GPA, qui est un système d'exploitation mondialisé et sur lequel, au nom de notre dignité, au nom de notre humanité commune, nous ne pouvons pas défendre. Nous devons absolument passer à l'abolition.
Si de cada gota de sang versada per l'infant, si de chaque goutte de sang bercé par un enfant. Brouillait jaune arrosé, jaillissait un coquelicot. La terre est prompte, je devinerais, la terre ne serait plus bientôt. Qu'une énorme boule à rouge, qu'une énorme boule rouge, qu'une énorme boule à rouge, 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 rouge. Rouge comme la vergogne, rouge comme la honte. Que devrait empourprer les nostres cares, qui devrait empourprer nos visages. Si t'ingais aimé le courage, si nous avions le courage de mirarnos ben mirat, de nous regarder, de nous voir. Quand nous passons devant un miroir, quand nous passons devant un miroir, ah, si nous avions le courage de nous voir. Si de cada gota de sang versada per l'infant brouillait une roseille, la terre prompte se devindria un enorme bola rose, un enorme bola rose, une énorme boule rouge, rouge.
Radio Libertaire 89.4. Vous venez d'entendre la chanson de interprétée par Serge Otcheroyo, écrite par Victor Simal, que je salue à distance puisqu'il nous a quittés il y a quelques mois maintenant, et que je remercie pour les magnifiques paroles de cette chanson qui doit nous donner du courage pour avoir un esprit critique dans toutes les situations de la vie qu'on rencontre aujourd'hui. Vous êtes toujours à l'écoute de Remis Ménage Féministe, comme tous les mardis de 12h30 à 14h30.
Et le titre de la chanson, c'était « Une énorme boule rouge ». Nous sommes donc toujours dans le studio avec Sandra Travers de Faultrier et Marie-Joseph de Villers pour parler de ce vaste sujet qu'est la GPA ou maternité de substitution. Alors Sandra, tu voulais rebondir sur ce qu'avait dit Marie-Joseph tout à l'heure.
Compléter, enfin, compléter. Il n'y avait pas de frustration. C'était pour renouer avec ce que je disais tout à l'heure de la place de l'État. Parce que là, on est dans un cas type où, justement, très longtemps, l'État était une sorte de tiers qui disait à l'individu où se trouvait la limite de son désir. À travers la loi, à travers etc. À partir du moment où il y a un effacement de cet ordre-là, il n'y a plus de limite inscrite. Et c'est donc la confrontation entre deux désirs qui va déterminer la loi. Or, je donne un exemple toujours, parce que ça a été ma spécialité professionnelle. En matière de droits d'auteur, par exemple, un auteur a des droits patrimoniaux, mais il a également, en France, des droits moraux. Or, ces droits moraux sont incessibles. C'est-à-dire qu'il a des droits, il a des prérogatives dont il ne peut rien faire. Ces prérogatives lui permettent simplement de se battre contre quelqu'un qui porterait atteinte à son nom, au respect de l'œuvre, enfin à un certain nombre de choses comme ça. Mais en revanche, il ne peut pas les monnayer, il ne peut pas les céder. Alors pourquoi prend-on ce type de décision? Parce qu'on sait qu'un auteur qui n'a pas d'argent, qui a besoin de manger, serait prêt à céder n'importe quoi. Et donc, l'État est là pour donner une limite en disant, mais même si vous crevez de faim, de toute façon, ça, c'est indisponible. Rappelons-nous l'affaire du lancer de nains. Le lancer de nains, ce brave nain, il avait contracté avec une municipalité, il avait signé, il était consentant, il gagnait sa vie avec. Pourtant, le Conseil d'État a estimé que cette chose ne pouvait pas exister.
Au nom de quoi ? Tu peux dire deux mots de plus, parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas, des auditrices et des auditeurs qui ne savent pas que ça pouvait exister, ce jeu.
C'est un jeu, absolument. Oui. C'est une attraction, on va dire, municipale, où un nain était comme un boulet de canon, en fait, et puis on le lançait, et puis apparemment ça faisait rire.
Et il était payé pour ça.
Il était payé pour ça, d'accord. Et il voulait, c'était,
voilà.
Il était contractuel.
Et il était consentant,
absolument,
voilà.
Tout à fait.
On ne le forçait pas.
Tout à fait. Or, le Conseil d'État a estimé que c'était attentatoire à la dignité humaine, et donc que le consentement n'avait aucune valeur. Donc voilà, je reviens sur cette idée que nous avons besoin d'un tiers, qu'on veuille ou non, qui nous dise non, ça n'est pas possible, même si je le veux. Et dans le cas de la GPA, nous avons affaire à un contrat qui est normalement illicite, puisque l'objet de ce contrat, c'est finalement la personne. La personne de la femme. Ouais. Parce que, je dirais, on fait semblant qu'elle a un corps. En fait, elle est un corps. Nous sommes une unité, corps-esprit. Et nous avons pris l'habitude, depuis les philosophes qui ont toujours essayé de disjoindre les deux, nous avons pris l'habitude de penser qu'il y avait du dualisme. Et la science n'a fait qu'accentuer, puisque obligée d'objectiver des organes séparément, on a le sentiment que les choses sont détachables de nous. Or, ce n'est pas vrai. C'est une représentation, mais ce n'est pas vrai. Donc, nous sommes en train, avec la GPA, de faire des contrats dont l'objet, c'est une vie. Ce qui est tout absolument incompatible. Donc voilà, c'est cette idée qu'on a besoin de quelque chose qui vient s'opposer à notre désir ou à notre volonté. Et c'est là que le questionnement de l'État est tout à fait important. Et là je terminerai, c'est bien ce qu'on reproche finalement en ce moment à la lecture qui est faite des droits fondamentaux et notamment des droits humains. Puisque bien souvent à la Cour européenne des droits de l'homme, c'est au nom des droits humains, au nom des droits de l'homme, qu'on prend telle ou telle décision. Le problème, c'est qu'un certain nombre de personnes, alors je veux dire ça se discute, mais estiment que beaucoup de ces droits humains sont en fait des droits désirs. Beaucoup plus que des droits fondamentaux. Surtout lorsque ces droits désirs s'imposent à autrui qui pourrait avoir un préjudice, subir un préjudice du fait de l'exercice de ce droit désir. Voilà.
C'est exactement ce qui se passe avec ce qu'on nomme maintenant le désir d'enfant ou bien le droit à la procréation.
Oui, tout à fait.
Qui est un désir qui prend la place du droit.
Bah, oui, on y reviendra plus tard sur ce sujet.
Nous pourrions tous vouloir être Mozart. Malheureusement, malgré des heures et des heures de répétition au piano, en général, on ne devient pas Mozart. Donc il faut accepter que nous n'avons pas tous les mêmes possibilités.
Oui, capacités.
Capacités. Oui. Oui.
Mais l'État n'a pas toujours raison non plus.
Ah non.
On est bien d'accord.
C'est bien pour ça que... Absolument. C'est pour ça que je parlais d'un tiers.
J'entends bien que la docteure en droit nous explique la situation actuelle. Je comprends bien.
Parce que en fait, c'est quand même dans le droit, à l'heure actuelle, dans le droit français en tout cas, dans le droit français, que nous trouvons la définition de la personne humaine, qui n'existe nulle part ailleurs, parce que je vous rappelle que pendant très longtemps...
Parce que ce droit aussi a une histoire concernant la personne humaine.
Absolument.
Il a une histoire.
Qui est religieuse. N'oublions pas que la première définition de la personne humaine, c'est « nous avons été créés à l'image de Dieu ».
Oui, enfin, ça se discute, on est d'accord.
Mais oui, mais
c'est ce qui a été dit.
Je vous parle d'histoire.
À
partir du moment où Dieu est congédié, c'est le droit qui prend la relève.
Voilà.
En tentant de donner une définition de l'homme.
Puis on a fait aussi 1789, la Révolution et tout le reste qui a suivi.
Oui, mais quel est le fondement pour vous dire, définir ce qu'est un être humain? Regardez aujourd'hui ce qui se passe scientifiquement, ce que nous apprenons à propos des animaux. La frontière, elle est très fine, extrêmement fine. Ouais. Regardez ce qui se passe pendant un certain nombre de guerres. Il suffit de mettre un matricule sur quelqu'un pour le dégrader de son humanité. Donc, on voit bien que nous sommes dans une fiction. Or, cette fiction, qui est-ce qui la porte? C'est le droit. Et dans le droit français, la définition de la personne humaine, c'est une définition qui dit que nous sommes une et indivisibles. que le corps est indisponible. Voilà. Et d'ailleurs, quand on défend la personne en droit français, on défend aussi bien la réputation, l'honneur, la considération, l'image, que sais-je encore, que son corps, que la dépouille mortelle. Il n'y a pas de scission entre les deux. C'est un tout.
Et ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'en fait, les personnes qui défendent la GPA dissocient le ventre de la femme
absolument.
Avec son corps.
Oui, ce qui est absolument impossible.
Voilà.
Absolument impossible.
On aimerait dire que ce soit impossible, mais hélas, il y en a qui contournent ce genre de principe. Et donc j'en reviens à l'article de Charlie Hebdo dont nous parlions tout à l'heure du 7 mai 2025. Et parmi cette réalité, donc, le journal parle de deux affaires de GPA actuelles. Je vais lire pour la première histoire, l'histoire d'Alejandra. Donc ses bras sont chargés de tapis, d'habits et de peluches qu'elle a cousus à la main et ses yeux remplis de larmes. Ce samedi 26 avril 2025, dans le local impersonnel d'une association du 5e arrondissement de Paris, Alejandra, une Argentine de 41 ans, qui a accouché en France d'un enfant issu d'une gestation pour autrui dite « éthique » entre guillemets, va enfin retrouver Raphaël, son fils de 1 an. Pas bien longtemps. Le juge aux affaires familiales, JAF, lui permet de le voir 1 heure tous les 15 jours sous la surveillance d'un membre de l'association, version sergent-chef, et de 2 caméras. « Je ne l'ai vu que 10 heures en 1 an », soupire Alejandra. Alors là, je me tourne vers Marie-Joseph parce qu'il me semble que la SIAMS connaît ces deux cas dont parle Charlie Hebdo. Est-ce que Marie-Joseph, tu peux en parler un peu plus?
En effet, et je remercie ici le journaliste Lionel Lévy qui s'est acharné pour faire en sorte que ces deux témoignages, le témoignage d'Élise et le témoignage d'Alejandra dont tu viens de parler, Catherine, soient publiés dans notre presse, parce que ça fait partie aussi de la stratégie pour faire connaître la réalité de la GPA. Et ces deux cas sont tout à fait emblématiques de ce qui se passe avec la GPA. Et je dois dire que ces témoignages sont extrêmement rares. Alors, ils sont rares et donc précieux. Ces deux femmes s'engagent contre la GPA aussi, dans le même temps, parce que dans les contrats de GPA, il existe une clause de confidentialité qui fait que les mères porteuses ne peuvent pas s'exprimer en public, ne peuvent pas raconter ce qui leur est arrivé, et même ne peuvent pas témoigner du fait, enfin leur famille ne peut pas témoigner du fait qu'elles en sont mortes. C'est-à-dire que c'est à cause de, lors de la naissance ou après la naissance, consécutivement soit au traitement, soit à l'accouchement, parce que quand même l'accouchement, la naissance, c'est toujours quelque chose de dangereux, elles en sont mortes, elles ne peuvent pas en témoigner.
Et pourquoi elles ne peuvent pas en témoigner?
Parce que justement, il y a cette clause de confidentialité dans les contrats qui interdit à la fois à la mère porteuse et à son entourage de raconter ce qui s'est passé, de témoigner de ce qui lui est arrivé.
Oui. Voilà. Alors je comprends juste pourquoi on écrit éthique entre guillemets quand voilà. Il s'agit de ce genre de contrat.
Alors je vais vous raconter ce qui est arrivé à Alejandra, qui est citée dans cet article. Alors Alejandra, elle est de nationalité argentine. Elle vivait en Argentine. Elle a 2 filles là-bas qui ont 20 et 18 ans. Elle avait une quarantaine d'années, donc ça, tout ça se passe il y a à peu près 1 an. Elle avait une quarantaine d'années, elle vit dans la partie d'Argentine qui n'est pas du tout la plus favorisée. Elle avait un ami de longue date, un ami un peu de jeunesse, qui vit, lui, en France, et qui a une très très bonne situation en France. Et qui est venu en Argentine et puis a commencé à discuter avec elle d'une proposition qu'il allait lui faire, qui était que lui, il est gay et il est marié avec son compagnon. Ils vivent tous les deux dans l'est de la France et vraiment, ils auraient terriblement envie d'un enfant. Et ce qu'il lui propose, c'est de venir en France et lui propose quelque chose qu'on pourrait qualifier en fait de coparentage, puisqu'ils vivront ensemble, elle et Laura, dans la maison qu'ils ont à la frontière avec la Belgique. Eh bien, elle habiterait à l'étage supérieur, eux habiteraient à l'étage inférieur, et tous les trois, ils élèveraient ensemble ce bel enfant qu'elle va leur produire.
En coparentalité, donc.
Voilà. Et puis, ils la font venir en France, et ils ont promis aussi de soutenir ces deux filles qui sont restées en Argentine pour qu'elles puissent continuer leurs études. Et ils lui ont promis aussi qu'elle aurait des papiers, qu'elle aurait une nationalité française, qu'elle aurait un travail. Alejandra, qui s'est trouvée à ce moment-là dans une situation un peu difficile, parce qu'elle venait en plus de perdre un enfant, elle était un petit peu...
Vulnérable.
Vulnérable. Et donc, elle s'accroche à cette proposition. Elle vient en France. Et donc, elle est effectivement hébergée dans cette maison. Et progressivement, au fur et à mesure que la grossesse avance, les choses commencent un peu à se détériorer dans leur relation. D'abord, ils lui ont retiré son passeport. Dès lors qu'elle est arrivée, on lui retire son passeport. Ensuite, quand elle regarde son téléphone, quand elle communique avec quelqu'un, on regarde par-dessus son épaule. Mais avec qui communique-t-elle et quoi ? L'enfant naît, et là, on l'empêche de prendre l'enfant dans ses bras. Il y a toujours la belle-mère du couple qui est là. Dès qu'elle se penche vers l'enfant, on l'empêche de le prendre dans ses bras, on la devance. Et puis aussi, on l'oblige, en fait, on lui demande instamment de tirer son lait, de ne pas l'allaiter. Tout ça commence à l'interpeller. Mais elle est seule, elle ne connaît personne, elle ne parle pas la langue. Que peut-elle faire ? Et voilà, 3 semaines après, elle est encore en dépression, un peu en dépression post...
Post-maternité ?
Oui, post...
Pardon, on voit les femmes qui n'ont pas fait d'enfants, elles ne connaissent pas ce genre de mots.
Postpartum. Et qu'est-ce qui se passe ? Voilà que ce couple organise pour elle... Elle ne l'a pas demandé, organise un déplacement, il l'envoie par Blablacar en Espagne, à Murcia. Parce qu'elle connaît plus ou moins quelqu'un, elle connaîtrait plus ou moins quelqu'un là-bas. Donc elle arrive à Murcia, 5 étapes pour arriver jusqu'à Murcia, par Blablacar. Elle arrive là-bas, elle rencontre la personne qu'elle n'a jamais vue, qu'elle ne connaît pas vraiment, qui tout de suite l'emmène chez une avocate. Et l'avocate lui dit, mais madame, ce que vous venez de faire en quittant le domicile que vous habitiez là-bas, c'est un abandon d'enfant. Elle ne veut qu'une chose, c'est retourner en France, retrouver son enfant. Elle appelle immédiatement les deux gays en disant, mais c'est pas possible, vous m'avez envoyé en Espagne, mais c'est grave parce que je vais être accusée d'abandon d'enfant. Elle va apprendre ultérieurement que les deux gays sont immédiatement allés à la police et ont déposé une plainte pour abandon d'enfant. Voilà. Ensuite, tout va un peu s'empirer. Elle va avoir la chance de rencontrer... On va la mettre en relation avec une avocate française qui dit, vous devez rentrer... Qui parle espagnol et qui connaît le milieu argentin, qui va s'occuper d'elle, pro bono, qui va lui trouver un travail, qui va la faire revenir à Paris, parce que ce n'est qu'à partir de Paris qu'elle peut intenter une action, puisque c'est là qu'habite son enfant... qu'en France, pardon, qu'elle peut intenter une action en justice pour récupérer ses droits de parentalité. Depuis, elle se bat pour récupérer les droits de son enfant. Et c'est ce que dit l'article. Aujourd'hui, elle n'a droit qu'à 1 heure de visite tous les 15 jours de cet enfant. Alors, je vais un petit peu plus loin, mais ce traitement qui a été infligé à Alejandra, c'est quelque chose qui s'appelle la traite humaine. Alors, la traite humaine, ça fonctionne sur 3 critères. Une action, un moyen et puis un objectif. Alors, l'action, elle a été recrutée. Elle a été amenée en France, on lui a retiré son passeport. Elle a été recrutée et on a obtenu son accord pour venir en France sur de la tromperie. Puisqu'on lui a promis des papiers, on lui a promis un travail, on lui a promis une coparentalité qui était totalement fictive. Et puis, l'objectif, c'est vraiment, le 3e point, c'est l'exploitation de sa capacité reproductive. Et je dois dire aussi que le cas d'Alejandra n'est pas exceptionnel, mais toutes les GPA relèvent de la traite humaine. En se référant au protocole de Palerme, qui définit ce qu'est un crime de traite humaine, la GPA remplit en effet ces 3 critères que je viens d'énoncer. Les mères porteuses sont bien recrutées, c'est pas elles qui vont se positionnées pour aller faire proposer à n'importe qui de faire un enfant pour eux. Elles sont enrôlées dans cette pratique par tromperie. Alors, on les trompe. En quoi les trompent-elles ? Systématiquement, on les convainc qu'elles ne sont pas la mère de l'enfant, ce qui est fictif. Elles sont bien la mère de l'enfant. C'est elles qui ont accouché, quand même, c'est une réalité. Et puis, on les convainc que l'enfant n'est pas vendu. Or, qui accepterait ? Parce que qui accepterait, bien sûr, de vendre son enfant ? Si on lui proposait de vendre son enfant, bien sûr qu'aucune mère porteuse n'accepterait de le vendre. Et enfin, la finalité de ces contrats, c'est bien l'exploitation. L'exploitation de leur capacité reproductive. Et puis, pourquoi en matière de GPA dit-on que l'enfant est vendu ? Alors, il y a des instruments internationaux qui définissent très bien la vente d'enfants. Alors, il s'agit de tout acte ou toute transaction en vertu desquelles un enfant est remis par toute personne ou tout groupe de personnes à une autre personne ou à un autre groupe contre rémunération ou tout autre avantage. Et pour distinguer l'adoption et la vente d'enfants, il y a un texte très très clair qui est la convention de 1993 sur l'adoption internationale qui précise bien, qui stipule que le consentement des parents et en particulier le consentement de la mère qui a donné naissance à l'enfant, ce consentement doit être recueilli après la naissance de l'enfant. Et quand on affecte, comme c'est le cas dans la GPA, quand on recueille le consentement de la future mère, de la mère porteuse, future mère de l'enfant, eh bien, on le recueille avant même la conception. Et donc ça marque clairement le fait que toutes les GPA sont des ventes d'enfants. Voilà.
Alors, je n'ai pas voulu te couper dans ton élan, mais je n'ai pas parlé du deuxième cas dont parle donc Charlie Hebdo dans son article du 7 mai 2025, GPA derrière l'éthique, la traite des utérus. Et je le lis maintenant, et tu t'en dis quelques mots après, oui. Et puis après, on fera une petite pause musicale, si Sandra veut intervenir aussi, d'accord. La justice française est rarement tendre avec les mères porteuses privées de leur enfant. Élise, une trentenaire française prof de fac, peut en témoigner. En 2020, cette militante LGBT met au monde un enfant pour le compte d'un couple d'hommes gays. Par altruisme et dans un projet de coparentalité, précise-t-elle. Là encore, le couple va peu à peu l'évincer après l'accouchement. Et la justice leur donnait raison. Les juges m'ont reconnue suffisamment mère pour verser chaque mois 200 euros de pension alimentaire, mais pas assez pour retenir le partage de la garde, dit-elle en colère. Donc ce cas d'Élise aussi, oui. La SIAM se le connaît ?
Oui. Élise, Alejandra et d'autres sont venues nous trouver parce qu'elles ont besoin de témoigner, elles ont besoin de parler, elles ont le courage de s'exposer ainsi, en fait, en témoignant, en racontant la réalité de ce qui leur est arrivé. On est en contact aussi avec d'autres mères porteuses qu'on essaie de soutenir par tout moyen. Alors, le cas d'Élise, il est similaire à celui d'Alejandra. Elle a été vraiment trompée avec une proposition totalement fictive, de coparentalité. Elle devait aussi élever cet enfant avec les deux gays avec lesquels elle avait convenu qu'il avait recruté comme mère porteuse. À l'époque, il ne lui parlait pas d'être... Ils n'ont pas mis en avant le fait qu'il la recrutait comme mère porteuse. Il la recrutait dans un projet de coparentalité. Et puis, par la suite, donc, dès que l'enfant est né, ça s'est très, très, très mal passé parce que l'accouchement s'est mal déroulé. Et puis, il a fallu utiliser une ventouse. Mais le gay qui a imposé le fait d'être présent à l'accouchement a pris tout le monde de surprise en exigeant une césarienne immédiatement parce que la mère porteuse, il n'en avait rien à faire, mais c'est l'enfant qui comptait. Et heureusement, le personnel médical qui était là n'a pas suivi ses caprices ou ses indications, heureusement. Mais par la suite, tout s'est compliqué. Ce projet de coparentalité s'est délité dans le temps. Au début, ils lui ont envoyé des photos, après les photos ont disparu, et après eux-mêmes ont déménagé successivement à plusieurs reprises. Et puis aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ? Eh bien, Élise en est à 4 ans, l'enfant a 4 ans. Elle en est à 4 ans de procédure pour récupérer son enfant. Aujourd'hui, à quoi a-t-elle réussi à aboutir ? Comme Alejandra, à quelques heures pitoyables de contact avec son enfant, à distance, donc de Paris, comme eux habitent à Nîmes, il faut qu'elle se déplace à Nîmes pour 2 heures, où elle peut voir l'enfant dans une maison de maternité où elle est surveillée par les travailleurs sociaux, travailleuses sociales. Mais ce que nous apprennent tous ces cas, ce deuxième cas, il a été analysé par une juriste qui montre que ce qui s'est passé, ce que ces commanditaires ont mis en œuvre, c'est une stratégie de prédation. Elle appelle ça une stratégie de l'agresseur. Alors la première étape, c'est de mettre en confiance. La deuxième étape, c'est de mettre sous contrôle. Là, on voit que Élise, le jour de l'accouchement, elle n'avait plus rien à dire. Et par la suite, même, elle avait besoin d'une semaine à l'hôpital. Au bout de 3 jours, ils l'ont sortie. Voilà, on voit contrôle coercitif, c'est-à-dire par exemple, quand elle voit l'enfant dans cette situation surveillée, eh bien, eux, ils s'arrangent pour contrôler ce qui va se passer quand elle est en présence de l'enfant. Donc, il y a ce contrôle coercitif. Et puis aussi, il y a cette tromperie. Là, ils l'ont trompé depuis le début. Ils l'ont trompé ensemble. Ils l'ont trompé en prétendant. Ils l'ont trompé. Je passe tous les détails de cette tromperie, mais ce sont des tromperies à répétition, jusqu'à faire des stratégies de disparition pour éviter d'être sous contrôle eux-mêmes, d'être incriminés. Ils ont utilisé beaucoup de subterfuges.
Et pour éviter aussi que la mère retrouve son enfant.
Oui, oui, oui. Et puis
pour l'éloigner.
Et ce qui est très, très grave, et c'est ce que nous dénonçons aussi, c'est que l'appareil judiciaire et l'appareil social, l'institution, c'est-à-dire l'institution judiciaire, l'institution sociale avec l'ASE, le juge pour l'enfant et toute cette. Et les médiateurs, médiatrices, eh bien, ils prennent fait et cause pour les commanditaires. C'est-à-dire qu'ils avalent les mensonges, ils sont convaincus par les mensonges très grossiers des commanditaires.
Oui,
et qu'ils participent eux-mêmes, c'est-à-dire que l'institution participe elle-même au désenfantement de cette femme.
Oui, voilà. On a tellement dit aux femmes que c'était, il n'y a pas longtemps, une femme m'a dit la GPA, c'est normal parce que les femmes, elles aiment faire des dons. Donc ça c'est vraiment c'est encore dans la tête des gens, peut-être même de ces personnes, ces institutions qui préfèrent croire ces deux hommes que de croire la mère de l'enfant et cet enfant qui veut aussi retrouver sa mère. Ce sont vraiment des histoires sordides. Donc là il se trouve que c'est deux cas avec deux couples de gays. Mais on peut imaginer, bien évidemment, enfin on reparlera tout à l'heure sur des contrats, on peut imaginer bien évidemment qu'avec aussi les couples hétérosexuels, il y a aussi beaucoup de ce genre d'histoire.
C'est la danse des écus. Les mains dans la caisse et dans le sang. C'est la danse des écus. L'or est le produit du travail des noirs. L'or, symbole du soleil. Au cœur de la terre, extrait sur les terres arides de Paris, Paris, Paris. On les retrouve au cœur de Paris. Paris, Paris. Et dans le sang, c'est la danse des écus. Les mains dans la caisse et dans le sang, depuis 40 ans. Le tiers-monde de terrain privilégié de la concurrence est-ouest. Il faut garder les pieds sur terre, ou bien vous acceptez en vous bouchant les narines, ou bien un concurrent enlève le marché. Les mains dans la caisse et dans le sang. Depuis plus de 40 ans, c'est écœurant.
Ah, Radio Libertaire 89.4, vous venez d'entendre la danse des écus interprétée par Colette Magny. Vous êtes toujours à l'écoute de Remue Ménage Féministe, comme tous les mardis de 12h30 à 14h30.
Et toujours dans le studio, en compagnie de Sandra Travers de Fautrier, docteur en droit, je rappelle, parce que tu nous parles beaucoup du droit, mais tu nous éclaires aussi, justement, tu nous donnes des éléments pour mieux pouvoir se défendre. Et puis, Marie-Joseph de Villers, coprésidente de la SIAMS, la Coordination internationale pour l'abolition de la maternité de substitution dans le monde. Parce que la GPA, c'est une histoire mondiale. Et on entend souvent parler d'un droit à l'enfant, de la liberté de notre corps. Ce sont souvent des slogans que j'entends dans des manifestations actuellement, qui sont assez surprenants d'ailleurs par certaines personnes. Et j'aimerais que vous donniez votre avis, toutes les deux, concernant la GPA, qu'on met en avant ce droit à l'enfant et la liberté de notre corps.
Alors, le droit à l'enfant n'existe pas. Voilà, en tout cas pour l'instant, il n'est inscrit nulle part. Donc le droit à l'enfant n'existe pas. Quant à la liberté que l'on peut avoir sur son corps, oui, effectivement. En tout cas, personne ne peut venir faire de l'ingérence dans notre manière de vivre, etc. Et en tout cas, aujourd'hui, je pense qu'on a une époque qui prouve à quel point ce message est victorieux. Maintenant, il y a une règle toute simple. À partir du moment où on ne porte pas atteinte à autrui en vivant son désir.
Ça, oui, parce que là,
un point important.
On entend notre corps, mais en fait, il s'agit du corps des autres.
Du corps des autres.
Et là, du corps des femmes.
Tout à fait, tout à fait. Et quant aux femmes elles-mêmes, je dirais, on fait comme si les femmes disposaient d'un droit patrimonial sur leur corps, ce qui est, en droit français en tout cas, absolument faux. Je le répète, je l'ai dit tout à l'heure.
Donc là, il s'agit d'une protection du corps des femmes.
Oui, tout à fait, absolument. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, la loi française fait que nous sommes dans l'incapacité, que nous soyons un homme ou une femme d'ailleurs, dans l'incapacité de disposer juridiquement comme d'un droit réel de notre corps.
Alors c'est encore beaucoup davantage incohérent par rapport à la question que je posais tout à l'heure. Comment se fait-il qu'en France, il y ait autant de personnes qui puissent avoir accès à la GPA ou alors peut-être se dit-on qu'on peut exploiter le ventre des femmes étrangères, surtout des femmes pauvres, plutôt que celles des Françaises?
Alors il est tout à fait évident que là on a une reproduction des pays pauvres et des pays riches.
Du marché capitaliste.
Voilà, ce sont les pays riches qui exploitent les femmes des pays pauvres. On n'a pas l'inverse, ça c'est tout à fait évident. Qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, non, c'est tout à fait particulier. Alors, moi, je ne vois rien d'autre que parler, et c'est très court, comme on dirait en Normandie, mais de l'air du temps, avec cette espèce de bienveillance généralisée qui circule partout et qui veut que tout le monde soit heureux, que, d'ailleurs, dans certaines constitutions, le droit au bonheur existe. On sait bien que non, c'est pas, ça ne se décrète pas, le bonheur.
Enfin, on le souhaite quand même à tout le monde,
bien, ce bonheur-là. Oui, bien sûr, mais
bonheur, il faudrait qu'il soit partagé, qu'il soit égalitaire.
Et puis, il est certainement pas.
Le cas de la GPA, apparemment, il ne l'est absolument pas.
Voilà, absolument. Donc là, on voit vraiment qu'il y a une... je dirais, si on prenait le langage des coloniaux, là, il y a quand même quelque chose qui relève d'un néo-colonialisme. Et comme par hasard, quand les gens choisissent un nouveau site, ils vont choisir un nouveau site d'une femme diplômée blanche, etc., etc. Et puis le sperme d'un homme aussi diplômé blanc. Et en revanche, le ventre qui va accueillir tout ça, bon, il peut être noir, il peut être bridé, il peut être ukrainien, voilà, les Ukrainiens sont très forts là-dedans, ils exportent leurs femmes sur les trottoirs pour la prostitution et...
Oui, enfin, en Ukraine, il y a beaucoup de GPA. Voilà. On va peut-être en parler tout à l'heure.
Rappelez-vous, pendant le Covid, le Monde qui avait fait un article pour évoquer tous ces bébés qui attendaient à l'aéroport de Kiev,
en Ukraine,
parce qu'ils devaient être livrés.
Ouais.
tous ces bébés abandonnés.
Voilà. Il y avait 100
de GPA. D'enfants. Une centaine d'enfants.
Tout à fait.
En Ukraine, abandonnés.
Donc, je veux dire, il faut savoir que ça se passe aussi à l'intérieur de nos frontières européennes. Enfin, je veux dire, géographiquement, j'entends.
Oui.
Voilà. C'est, bien sûr, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Asie, sont des lieux de prédilection pour les prédateurs reproductifs, si j'ose dire. Mais à l'intérieur même de l'Europe géographique, ça existe. Et il y a un vrai
trafic. Hein.
Alors, cela dit, je préciserai quand même que il faut dénoncer ce qui ne va pas. Ma crainte, c'est toujours que derrière la dénonciation vienne la réponse, mais dans ce cas-là, régulons. Et si vous voulez, c'est pour ça que moi, je me bats essentiellement sur les principes, parce que les cas, et c'est bien de les faire exister, mais les cas, on va toujours nous répondre, eh bien, c'est la raison pour laquelle nous allons réguler, c'est la raison pour laquelle nous allons mettre en place des contrats qui seront respectés, etc. Alors même que l'idée même de contractualiser cette opération-là ne peut pas être imaginé.
C'est comme si on disait il faudrait peut-être réguler l'esclavage.
Voilà.
Après tout.
Oui.
On pourra aller après continuer.
Absolument.
Ça ira tout à fait dans ce sens. Et nous reste, il nous reste encore un quart d'heure. On va parler de peut-être des actualités de la GPA dans le monde avec Marie-Joseph de la Siams. Tu nous as dit, quand on a préparé l'émission, je t'avais demandé de nous faire des actualités, commencer par les actualités négatives et finir par les positives. Et puis, tu m'as répondu, je préfère qu'on donne que les actualités positives. Donc, c'est bien, parce qu'avec tout ce qu'on entend en ce moment...
Je voulais m'excuser, avant même de passer, je voulais rester un petit instant sur la notion de contrat, puisque je dénonçais le contrat. Encore faut-il que je donne les arguments pour, parce que pour moi, ce contrat a un objet illicite, à savoir la vie de quelqu'un. Qu'à l'intérieur de ce contrat, vous avez un consentement à l'atteinte physiologique à un corps sain. Rappelons-nous qu'un médecin a pour mission de soigner un corps malade, enfin une personne malade. En revanche, porter atteinte à l'intégrité de la santé de quelqu'un, ce qui est le cas, puisque avant même d'être inséminée, une femme qui va accueillir, je dirais, un embryon, et traiter pour que, hormonalement, l'embryon puisse se fixer. Elle est traitée avec des anti-rejets, parce que comme cet embryon n'est pas d'elle, eh bien, le mécanisme absolument miraculeux qui fait qu'en temps normal, une mère ne rejette pas son enfant, sauf si l'embryon est mal formé, etc. Là, avec un embryon étranger, si j'ose dire, la greffe ne prendra pas. Donc, vous avez des traitements anti-rejet tout au long de la grossesse. Voilà.
Beaucoup de
exactement
de
tous ces éléments avant
chimiques,
et puis après, pendant la grossesse, il y a également un traitement. Et vous avez évoqué tout à l'heure le choix du mode d'accouchement. Il y a beaucoup plus de césariennes avec tous les risques que l'on connaît que d'accouchement, je dirais naturel, par voie basse. Et puis il y a toutes les suites. C'est-à-dire que une femme qui accouche peut être blessée par l'accouchement, peut avoir des suites. Alors je veux pas faire peur parce que je sais que sur Internet courent des tas de choses qui horrifient les pauvres jeunes femmes qui ne veulent plus faire d'enfants parce que l'on raconte des tas d'atrocités. Non, l'accouchement peut très bien se passer, mais il faut quand même tenir compte du fait que une femme risque toujours sa vie en donnant naissance à un enfant, et que même si c'est pas sa vie, c'est c'est la suite de ces jours qui peuvent être impactés, comme on dit en bon français. Il y a des blessures, des mutilations, des choses qui peuvent rester. Encore une fois, c'est minoritaire, mais ça existe. Or, on sait très bien que dans le cadre d'une grossesse, provoquée, et on le sait, y compris quand on fait des FIV, pour les femmes qui font pour elles-mêmes, ce sont des grossesses à risque et ce sont des accouchements à risque. Voilà. Donc tout cet élément-là prouve qu'on a pris une personne saine, en bonne santé, et que cette opération, contractuellement, porte atteinte à sa santé. Donc, vous voyez, deuxième élément d'invalidité, c'est pas possible de faire un contrat avec ça. Ensuite, c'est un contrat qui contient de l'irréversibilité. Une fois qu'une femme est enceinte, elle peut pas rompre le contrat. Vous voyez, dans n'importe un contrat de travail, vous faites un contrat de travail, vous pouvez démissionner.
Mais bien sûr.
Si vous voulez demain, vous avez peut-être un préavis, mais vous pouvez démissionner. Quand vous êtes enceinte, vous ne pouvez pas démissionner.
C'est l'aberration, c'est
voilà, donc le
d'appeler ces contrats éthiques.
Et d'appeler ça contrat.
Alors que tous ces contrats oui. disent que la femme, la mère, pardon, la mère n'aura pas le droit de s'attacher à son enfant et devra, puisque c'est écrit dans le contrat, le donner au couple qui l'a demandé ou à la personne qui l'a demandé. Oui, comment on peut appeler ça éthique, hein, de défendre une mère de s'attacher à son enfant même après avoir signé un contrat?
Alors, on parle d'éthique quand la mère ne gagne pas d'argent.
Oui.
C'est ça, le mot éthique est attaché à ça.
Oui.
Sinon, le reste, ça sera commercial. Oui. C'est-à-dire que la mère fait partie des différentes personnes qui, en général, c'est la minorité d'ailleurs, hein, mais qui va toucher ouais. quelque chose à cette occasion. Ouais. Non, il n'y a pas d'éthique. Alors là, je dirais, nous les femmes, nous sommes victimes d'un discours depuis très très longtemps qui a tendance à faire de la maternité quelque chose de bestial, naturel, du côté du matériel et du corporel. Il y a une espèce de... On a évincé totalement toute la dimension psychique, la dimension intellectuelle, parce que je le dis, une grossesse, c'est pour une femme une expérience existentielle absolument extraordinaire qui lui permet de faire un parcours. Même si ça s'est mal passé, il se passe quelque chose. Elle n'est plus la même après.
Oui, c'est pas...
Voilà.
Bien sûr.
Donc,
elle a vécu avec un enfant 9 mois dans son ventre.
Exactement, avec un autre. Ouais. Cette altérité qui est là, avec laquelle elle entre en relation, c'est une expérience absolument déterminante. Or, tout cela, je dirais, nous sommes habitués depuis des siècles à n'en pas parler. Les femmes enceintes n'ont jamais parlé de ce qu'était la grossesse, à part s'en plaindre parce que ça rentrait dans le... Hein, en général, une femme enceinte, elle crie quand elle accouche, se plaint parce que c'est lourd, ou elle a envie de fraises, enfin bon voilà. Mais il n'y a pas du tout l'aspect, intellectuel, expérientiel, existentiel, enfin toutes ces choses qui font que nous sommes une unité corps et esprit, et que nous entrons dans un chemin, et quand nous en sortons, c'est pas la même chose. Voilà. Et ça, le fait d'avoir fait abstraction totalement sur ça fait que, de manière très pornographique, on aborde la grossesse comme si c'était quelque chose simplement d'organique. Hein, et je dis pornographique parce que dans la pornographie, la femme est réduite à des orifices et des organes. Et bien, dans la GPA, la femme est réduite à des orifices et des organes. Voilà.
Mais à propos des risques dont tu parlais tout à l'heure, j'ai une amie qui a accouché il y a quelques mois, qui était en parfaite santé, sans problème quelconque, et après l'accouchement, maintenant, elle a un diabète. Donc, voilà, les gens n'ont pas l'air de se rendre compte qu'une grossesse, porter un enfant pendant 9 mois, c'est quelque chose comme ça, en claquant des doigts, qu'on achète.
Ce n'est pas parce que c'est naturel, c'est-à-dire c'est pas parce que la femme en a l'aptitude naturelle, que c'est simple.
Bien sûr. Tu voulais, Marie-Joseph, rajouter quelque chose?
Non, je suis tout à fait tout à fait d'accord avec cette analyse très pertinente. Oui, bien sûr, on passe trop souvent sous silence la part que font les femmes dans cette...
Une fois de plus, c'est les femmes qu'on n'écoute pas.
Oui.
Ben voilà. Et d'ailleurs, dans le chapitre, il y a un chapitre concernant les contrats dans le livre Les marchés de la maternité. Je lis quelques lignes, c'est la fin du chapitre. Le contrat de GPA protège les intérêts de ceux qui payent afin qu'ils obtiennent l'enfant souhaité. Il est cependant faux de considérer qu'il respecte la liberté de la femme mère porteuse, entre guillemets toujours, compte tenu de l'aliénation intrinsèque de cette liberté, de mouvement d'action, de disposition de soi, etc., puisqu'il précise que, je cite, « toute tentative de la renégociation peut être considérée comme une violation substantielle du présent accord et pourrait être considérée comme un acte criminel ».
Pour l'instant, en France, ce type de contrat, c'est ce qu'on appelle un contrat nul et non avenu.
Oui, voilà.
Ça ne peut pas avoir d'existence compte tenu du droit tel qu'il est.
Donc,
tu voulais que je parle
Donc, on avait dit les actualités positives.
Oui,
on en a bien besoin en ce moment de positif.
Mais aussi, ce qui nous importe, nous autres, à la coalition internationale, c'est d'avoir vraiment une vision un peu mondiale de ce qui se passe un peu partout sur la GPA, parce que ce qui se passe d'un côté, ça va impacter ce qui se passe ailleurs. Si ici si on est en train de travailler sur l'ouverture à la GPA, ça va avoir un impact sur les femmes de ce pays, mais les femmes des autres pays aussi. Voilà. Et dans les nouvelles récentes, je ne ciblerai que les nouvelles positives, parce que c'est tellement important d'aller de petite victoire en petite victoire pour montrer que ça avance quand même dans le bon sens. Je citerai plusieurs cas. Alors, l'Irlande. L'Irlande, l'an passé, depuis 2022, elle travaille sur une loi pour ouvrir à la GPA domestique et à la GPA internationale. Sur une rhétorique un peu bizarre, c'est nous, Irlandais, pour une fois, on va être à la pointe du progrès en inventant une loi pour ouvrir la GPA qui sera la plus belle, la loi la plus précautionneuse, la loi la mieux configurée du monde. Voilà. Alors qu'en fait, en Irlande, on sait très bien que les femmes et les enfants ne sont pas les mieux traités. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas ? Le gouvernement, un peu un changement au niveau du gouvernement, et tout d'un coup, une nouvelle équipe gouvernementale arrive, et la loi qui existe, mais n'a pas encore été promulguée, est tout d'un coup mise à l'arrêt. Elle ne sera pas promulguée pour l'instant, parce que la première ministre dit... Écoutez, nous faisons partie de l'Europe et au niveau de l'Europe, eh bien, il y a cette nouvelle directive, cette directive révisée sur la traite humaine qui cite la GPA comme étant un cas de traite humaine dans un contexte défini particulièrement dans cette directive. Et il faut nous assurer que ce que nous avons fait dans cette loi, à la fois dans la loi domestique et la loi d'ouverture à la GPA internationale, la GPA transfrontière, eh bien, nous ne contrevenons pas à ce que a préconisé l'Europe, l'Union européenne, en incluant la GPA dans la traite humaine. Ça, c'est un progrès. Il faut dire que les organisations féministes là-bas se sont vraiment battues, vraiment de façon extrêmement courageuse, extrêmement délibérée, pour contrer ce projet de loi. Nous n'avons pas gagné, mais là, le fait que la Première ministre mette ça à l'arrêt, c'est une bouffée d'oxygène pour... nous autres.
Enfin, toutes. Une femme qui écoute les femmes.
Exactement. Alors, au Royaume-Uni, on est un petit peu dans la même configuration. Depuis au moins, combien d'années ? 4, 5 ans. Alors, au Royaume-Uni, il existe une loi qui organise la GPA. Voilà, c'est organisé sur le mode pragmatique, avec un encadrement, un dispositif judiciaire pour transmettre la filiation avec un jugement, ça s'appelle Parental Order. Et cette commission qui a été mise en place, elle avait pour but de rénover un peu cette loi poussiéreuse. C'est une des premières lois qui ouvre à la GPA en 1985, je crois. Et toujours on dit, voilà, elle est poussiéreuse, il faut la réformer. Eh bien, la vision de cette commission, c'était, les temps ont changé, 85 c'était un autre contexte, maintenant on est plus large, il faut revoir ça, et surtout dans notre loi, il faut sécuriser ces pauvres commanditaires qui sont insécurisés, parce que dans notre loi, une femme est là plusieurs mois, là, 6 mois, pour décider si elle garde l'enfant ou pas. Qui est un délai calqué sur celui de l'adoption. Et il faut quand même revenir à ça, parce que ça insécurise les commanditaires. On ne sait jamais si la mère porteuse décidait de garder le même enfant.
Donc bien. Je rappelle que les commanditaires sont les acheteurs, hein, acheteurs de l'enfant.
Oui, alors on dit toujours, de notre côté, on dit commanditaire, parce que le marché lui dit part en intention, comme si on devait être, si la parentalité se définissait par... le désir d'enfant ou la décision intellectuelle d'obtenir un enfant.
Oui, il faudrait finir la phrase en disant « parent d'intention d'acheter un enfant à une mère ». Voilà. Qui n'a peut-être pas accouché de sa propre volonté, de son propre désir.
Et les organisations féministes là-bas se sont battues, mais vraiment comme des lionnes, de façon là aussi acharnée pour contrer cette commission. Pour contrer tous les points du texte proposé par cette commission. Elles ont organisé des campagnes, elles ont vraiment fait une communication pour expliquer ce que c'était que la GPA et en quoi ce que la commission était en train de faire était nuisible à toutes. Eh bien, c'est merveilleux parce que le gouvernement a là aussi décidé de mettre à l'arrêt les travaux de cette commission et pour l'instant de ne pas les considérer. Donc on reste sur le statu quo de la loi. Alors, on ne va pas de victoire en victoire, mais au moins, on ne va pas dans le pire. Dans les constats que je fais sur un peu ce qui se passe, c'est en Europe qu'il se passe le plus de choses positives. Toujours comme pour ce que je disais au début, c'est quand même qu'en Europe, ce qui nous fonde, c'est quand même la notion de la dignité humaine, et la GPA est contraire à la dignité humaine. On a aussi en Espagne une modification d'une instruction qui automatisait un peu le transfert de filiation des enfants nés de GPA à l'état civil espagnol. Ça passait par les consulats dans tous les pays, donc c'était une procédure simplifiée. Aujourd'hui, une instruction revient complètement sur cette facilité et reprend en fait une disposition qui recentralise le transfert d'état civil à l'état civil espagnol sur un point central, un petit peu comme ce qui se passe en France à Nantes, et avec un contrôle de tous les cas de GPA qui passent par cette procédure. Donc là, un peu plus de sévérité sur ce qui se passe sur la GPA étrangère. Et puis, transfrontière. Puis on a eu, bien sûr, l'Italie, avec le gouvernement avec lequel nous ne sommes peut-être pas... on ne partage peut-être pas les mêmes valeurs. En tout cas, en prenant... une décision très très simple qui consiste en fait à étendre l'interdiction existante de la GPA qui s'appliquait à la GPA domestique, à la GPA faite en Italie, l'étendre en fait à la GPA faite organisée dans n'importe quel autre pays par des citoyens italiens qui sont là aussi pénalisés pour avoir eu recours à la GPA, comme ils l'auraient été s'ils avaient fait une GPA avec une mère porteuse italienne. Eh bien là, on donne un signe à l'ensemble des autres pays que, attendez, là, on va peut-être mettre un point d'arrêt à ce développement galopant de la GPA.
Oui, je préciserai que c'est ce que nous, en France, nous avons fait pour lutter contre la pédophilie.
Oui.
L'extraterritorialité qui permet à un tribunal français de poursuivre un Français qui est parti en Asie pour faire du tourisme sexuel, permet à ce tribunal français de condamner le Français qui est allé pratiquer à l'étranger. Donc ce que fait l'Italie, nous pourrions parfaitement le faire aussi chez nous en France, puisqu'on le fait pour protéger les enfants de la pédophilie à l'extérieur. Voilà. Ouais.
Alors ça, c'était le point un petit peu positif, les nouvelles un petit peu positives. Dans le reste du monde, c'est pas très brillant. Mais une petite ouverture, c'est qu'en Australie, une commission va, un petit peu comme ce qui s'est passé au Royaume-Uni, rebattre les cartes sur la loi existante. Mais là, nous sommes en train les organisations féministes qui sont là-bas sont en train de réagir et de monter une campagne et nous ont sollicité pour qu'on puisse travailler ensemble sur la stratégie à appliquer pour contrer cette tentative d'ouvrir davantage à la GPA. Là-bas, de façon un peu schématique, ce qui est autorisé, c'est la GPA altruiste, ce qui est interdit, c'est la GPA commerciale. Il y a même un article dans le code pénal qui pénalise le recours à la GPA commerciale à l'étranger, qui n'est jamais appliqué, ou rarement, une fois, je crois, ça a été appliqué. Mais... cette espèce de ressort qui fait que des féministes se mobilisent pour contrer cette tentative, c'est extrêmement positif pour nous. Nous, ce qu'on aimerait vraiment, ce qu'on vise, c'est que dans chaque pays, il y ait comme ça une coalition qui se mobilise pour surveiller ce qui se passe dans le pays en matière de GPA. Pour contrer toutes les tentatives d'ouverture à la GPA. Parce que ces tentatives sont nombreuses un peu partout. On n'a pas fini, ça ne fait que commencer, ça ne va que s'empirer. Donc il faut absolument une mobilisation féministe très importante. J'ajouterai aussi qu'aujourd'hui, sur la question de la mobilisation féministe, elle est claire maintenant. Elle est claire sur les grands sujets d'exploitation des femmes, prostitution.
Tu veux parler de la France ou en général, dans le monde.
Dans le monde.
D'accord.
Prostitution, pornographie, c'est clair. Pédophilie, les actions féminicides aussi. Oui. Là, ça a beaucoup avancé. Mais sur la question de la GPA, ça n'est pas encore aussi présent que ça devrait l'être dans la galaxie féministe.
Mais parce qu'il y a un manque d'informations et on peut voir que la majorité des journaux et des médias français prennent cause pour la GPA en la présentant comme quelque chose de magnifique. Et en fait, c'est de la manipulation mentale. On nous prend vraiment pour des idiotes. Et moi, je le vois parce que ça m'arrive parfois de parler de GPA, des personnes que je rencontre, ça peut être dans un bar ou ailleurs. Et je n'ai pas encore rencontré une personne qui m'a dit « c'est génial ». La plupart des gens me disent « c'est vraiment dégueulasse ce genre de choses, comment on peut accepter ça ?» Donc, en fait, je me dis « mais alors, entre les gens que je rencontre, entre guillemets, du peuple, et sans, moi j'en fais partie et tout le monde en fait partie, hein, je me dis « mais il y a un décalage incroyable entre les médias français » qui sont tenus, bon, bah, pour la majorité quand même, par des marchands d'armes aussi, hein, que donc les questions d'enfants qu'on achète ou qu'on vend, ils en ont rien à faire, parce que déjà, ils sont déjà dans un système capitaliste. Mais c'est, comme tu dis, c'est très important, c'est pour ça aussi que vous êtes là aujourd'hui, à Radio Libertaire, pour éclairer les gens, qui ne sont, à part des journaux, ben, comme Charlie Hebdo, qui fait ce qu'il peut pour alerter la population. Attention, ne vous laissez pas berner dans ce genre de choses, c'est vraiment l'exploitation du corps des femmes.
Je peux ajouter quelque chose sur ce sujet-là ?
Ah ben, au contraire, t'es là pour ça.
Justement, tu parles des médias et puis du poids des médias. Alors, consciente de ce poids et puis tentant de lutter contre cette emprise sur l'opinion publique, eh bien, nous avons lancé une étude sur le traitement de la GPA dans la presse française. Je pense qu'elle va sortir en septembre. Mais déjà, ce qu'on voit, c'est... nous n'étions pas dupes, hein. Mais c'est le peu de cas que les médias font de la vraie question de la GPA. Alors, il y a plusieurs aspects. Si l'on prend simplement un journal, un titre, Le Monde quand même, c'est quelque chose qui est considéré comme...
un média qui est considéré comme sérieux,
comme
on
sérieux,
va dire,
hein, et puis par, formateur d'opinion.
Oui.
Là, on constate sur une étude qui part de 2019 jusqu'à 2024, donc 6 ans, Le Monde a sorti 25 articles seulement qui parlent de GPA, qui vraiment ont comme sujet principal la GPA. Et sur ces 25 articles, eh bien, 24 sont en faveur de la GPA. Un seul est à peu près neutre. Donc c'est lamentable.
Voilà. Mais vous, on vous réinvitera.
Oui.
On réinvitera la SIAM pour nous parler de cette enquête très intéressante, que au moins là on aura des chiffres, on le saura exactement, parce qu'on le voit quand même, hein, on sait que certaines personnes ont été mises en avant pour parler de leur famille, sans citer de nom, c'est quand même c'est une façon de manipuler quand même les personnes pour qu'elles puissent rien y comprendre et puis pouvoir accepter ce genre de choses. Donc c'est très très dangereux, c'est très 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 dangereux.
J'ajouterais qu'il y a aussi la politique de la, comment dire, du fait, on tire argument du fait que ça existe et que quantitativement c'est important pour, d'une certaine façon, l'intégrer dans notre monde. Or, je dis toujours, le viol, quantitativement, c'est quelque chose qui est extrêmement présent. Alors, à quand une loi qui va réguler le viol ?
Et voilà. Enfin, évidemment, ce que tu dis, c'est ironique.
Hein, mais bien sûr, bien sûr.
Attention,
bien sûr.
Les personnes qui nous écoutent.
Je me pose la question, parce que chaque fois qu'on me met en face, est énorme, il y a tant de gens, on ne peut pas ignorer.
Oui, et on fait. Tu dis la même chose que ce qu'on dit pour la GPA.
Voilà, le droit peut faire en sorte qu'on décide que telle chose qui est massive n'est quand même pas licite.
Je voudrais poser une question à nos invités aussi, qu'elles complètent, en me donnant comment on peut les contacter.
C'est prévu à la fin, là.
Ah, d'accord.
Si tu peux faire une pause, si on peut faire une pause musicale, et puis après, on va leur demander les coordonnées.
Petit monsieur, petit costard, petite bedaine. petite saleté dans le regard, petite fredaine, petite poussée dans les coins, sourire salace, petite ventouse au bout des mains comme des limaces, petite crasse. Il y peut rien, ses ondes des saints, quoi, il est pas un assassin, il veut simplement apprécier ce que la nature met sous son nez. Mais c'est pas grave, c'est juste une femme. C'est juste une femme à saloper. Juste une femme à dévaluer. Je pense pas qu'on doive s'en inquiéter. C'est pas un drame, c'est juste une femme. Petit ami, petit patron, petite pointure. Petit pouvoir, petit chef haillon, petite ordure. Petit voisin, petit professeur, main baladeuse. Petit curé, petit docteur, parole visqueuse, entremetteuse. Il y peut rien si ça l'excite, et qu'est-ce qu'elle a, c'est hypocrite. Elle devrait se sentir flattée qu'on s'intéresse à sa beauté. Mais c'est pas grave, c'est juste une femme. C'est juste une femme à humilier. Juste une femme à dilapider. Je pense pas qu'on doive s'en offusquer. C'est pas un drame, c'est juste une femme. Petit mari, petit soupçon, petite incartade. Petite plaisanterie de salon, petite rigolade. Fermer les yeux, on n'a rien vu, petite souffrance. Et trembler qu'une fois de plus, il recommence. Inconvenance. Quoi, si on peut plus plaisanter, on n'a plus qu'à se la faire couper. Non, c'est vrai, il n'est pas un monstre, et c'est l'épouse qui prend la honte. Mais c'est pas grave, c'est juste une femme. C'est juste une femme à bafouer. Juste une femme à désespérer. Je pense pas qu'on doive s'en séparer. C'est pas un drame, c'est juste une femme. Mais dès qu'une femme, messieurs, mesdames, est traitée comme un paillasson, et quelle que soit la façon, quelle que soit la femme, dites-vous qu'il y a mort d'âme. C'est pas un drame, juste des femmes.
Radio Libertaire 89.4, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Remue-Ménage féministe, comme tous les mardis de 12h30 à 14h30. Vous venez d'entendre notre chère Anne Sylvestre nous interpréter sa chanson « Juste une femme ».
Et donc, toujours en compagnie de Sandra et de Marie-Joseph, concernant la GPA, nous allons bientôt nous quitter. Et pour terminer, je vais lire la fin de l'article de Charlie Hebdo, donc qui nous parle de la GPA, derrière l'éthique, la traite des utérus. La GPA est un business juteux dont profitent cliniques, médecins, notaires, avocats, politiques, narcotrafiquants, afin d'organiser des ventes d'enfants pour de riches occidentaux au détriment de femmes de pays pauvres, un marché mondial évalué à près de 22 milliards de dollars aujourd'hui et qui devrait atteindre dans 10 ans les 200 milliards de dollars. Êtes-vous d'accord avec la conclusion de l'article ou avez-vous quelque chose vite fait à ajouter ?
Alors, à l'article, non. En revanche, en m'adressant à l'auditoire, je dirais, n'ayez pas peur de vous informer et de dire. Parce que actuellement, ce qu'il faut craindre quand on a une position ferme sur ces questions, ce sont finalement les fondements que nous sommes supposés mettre en avant. Alors que ce n'est pas le cas, j'en prends trois. Premier fondement, nous serions des réactionnaires, parce que non progressistes. Il ne faut pas avoir peur de dire que c'est être progressiste que de défendre les femmes. Ce n'est pas, c'est plutôt être réactionnaire que de viser un système dans lequel la femme serait effacée comme elles ont toujours été effacées. Deuxièmement, autre fondement qu'on nous met en face, vous êtes homophobe. Il ne s'agit pas du tout d'homophobie, parce que d'abord, la gestation pour autrui bénéficie aussi à toutes ces stars de cinéma que l'on voit, qui ont déjà eu 2-3 enfants et qui ont envie d'en avoir 10, et qui, etc.
Donc, et qui n'ont pas envie de s'abîmer le ventre, voilà, donc ils préfèrent abîmer le ventre d'une autre femme.
C'est à la mode, donc ce n'est pas du tout quelque chose de cet ordre-là. Et troisième fondement qu'on nous met en avant, c'est la religion. Nous parlerions au nom d'une religion, comme quoi nous serions obscurantisme. Je dirais non, pas du tout. Vous avez bien vu que je me suis fondée uniquement sur des idées philosophiques que le droit a entérinées, jamais sur une religion. Et de toute façon, la religion n'est pas forcément gentille pour les femmes. Je ne vois pas pourquoi. La religion, en général, elle va défendre l'enfant, mais pas la femme. Donc, en tant que femme qui essaie de défendre les femmes, ce n'est pas là-dessus que je prends appui. Voilà.
Voilà, voilà qui est dit. Marie-Joseph.
Alors, j'ajoute simplement à la longue liste des intermédiaires, des personnes impliquées dans le GPA, je vais en ajouter deux, parce que je vais ajouter donc les psychologues, parce que les psychologues sont appelés aussi dans la GPA. Pourquoi ? Ben pour montrer à la femme comment se dissocier, c'est-à-dire comment accepter de livrer son enfant.
Les psychologues, son enfant.
Voilà, et les psychologues sont là pour ça. Au Canada, même la loi oblige les psychologues à donner un jugement dans chaque convoquer en fait les commanditaires et la mère porteuse pour chaque contrat de GPA. Et ils sont pas là pour parler de l'enfant ou parler du sort des risques que prend la femme. Ils sont juste là pour vérifier que en fait toutes les clauses de contrat ont bien été relues. Ensuite, il y a les banques. Les banques aussi ont affaire à la GPA dans le sens où elles financent. La GPA. Il y a bon nombre de banques qui proposent des produits de financement de la GPA. Voilà.
Oui.
Alors, je conclue là-dessus en disant que les systèmes d'exploitation au travers de la GPA, de la prostitution, sont très similaires, mais ce qui les distingue vraiment, c'est que dans la GPA, on a affaire à bon nombre d'intermédiaires, de parties prenantes, de professions. Donc la GPA profite à énormément de monde. Dans la prostitution, c'est un peu plus limité. Et l'institution elle-même est complice de la GPA.
Eh bien, merci toutes les deux d'être venues sur Remue-Ménage Féministe pour avoir éclairé nos lanternes et en savoir davantage sur ce qui se passe derrière le paravent concernant la GPA, et que ce n'est pas du tout ce qu'on nous raconte la plupart du temps dans les différents médias français. Et pour en savoir plus et vous contacter, vous pouvez donc consulter le site du CORP, C-O-R-P, et le site de la SIAMS. Marie-Joseph, tu peux nous dire?
Alors, pour nous contacter, bien sûr, il y a notre site, abolition-du-6.
Voilà. Pour les gens
qui ont un Mac.
Voilà.
Abolition-MS. Pourquoi MS ? Parce que maternité de substitution. Les deux initiales de maternité de substitution.org. Mais pour nous contacter aussi par mail, écrivez-nous, n'hésitez pas à nous poser des questions. Notre adresse mail est très très simple, abolition.gpa@gmail.com. Et je vous invite vraiment à nous contacter très rapidement, parce que ce jeudi 19 juin 2025, eh bien, nous organisons la dernière séance de notre formation à la GPA. Comme on le disait tout à l'heure, il est très important de connaître la réalité de la GPA. Donc la dernière session de cette formation en 4 modules aura donc lieu jeudi matin, jeudi 19, entre 9h et 13h. Il faut passer par l'inscription abolition.gpa@gmail.com, et on y parlera de deux très importants sujets. Celui qu'on a évoqué tout à l'heure avec les témoignages. On a des témoignages aussi bien d'enfants nés de GPA que de mères porteuses. Et dans une deuxième partie, on va explorer un peu ce qui se passe du côté des, ce qu'on appelle, nous, les marchés de la vente d'enfants, les salons de la vente d'enfants. On a par exemple le salon Désir d'enfants. On a le salon Men Having Babies, ce qui veut dire les salons pour conseiller les hommes qui veulent avoir des enfants. Et on va expliquer un petit peu, montrer ce qui se passe à l'intérieur de ces salons, ce qui est proposé. Voilà, pour nous rejoindre, c'est très très simple. Écrivez-nous si vous souhaitez participer à ce dernier module, abolition.gpa@gmail.com. www.gpa@gmail.com.
Merci beaucoup Sandra et Marie-Joseph. Merci. À une prochaine fois.
Merci de votre invitation.
Il n'y aura plus de misère. Les soldats seront troubadours et nous nous serons morts, mon frère. La mauvaise partie. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Les soldats seront troubadours et nous nous serons morts, mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, pour qu'il y ait un meilleur vent, il faut toujours quelques perdants, de la sagesse ici-bas. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Les soldats seront troubadours et nous ne serons pas, mon frère. Les soldats seront troubadours et nous ne serons morts, mon frère.
Radio Libertaire 89.4, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Remue-Ménage féministe comme tous les mardis de 12h30 à 14h30 et vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur nos blogs, sur Blogspot et sur Mixcloud, Remue-Ménage féministe. Vous venez d'entendre Catherine Ribeiro interprétant la chanson « Quand les hommes vivront d'amour » dont les paroles et la musique ont été écrites par Raymond Lévesque. Nous allons maintenant passer à la toute dernière partie de l'émission avec quelques informations, quelques rendez-vous féministes. Vous avez évidemment entendu, juste avant cette pause musicale, le rendez-vous de jeudi de 9h à 13h à la Cité Audacieuse, 9 rue de Vaugirard à Paris dans le 6e arrondissement, pour la dernière séance du cycle de formation dispensé par la CIAMS, Coordination internationale pour l'abolition de la maternité de substitution, que nous venons d'entendre longuement nous expliquer de quoi il s'agit. Mais si vous voulez en savoir plus, en discuter avec d'autres, n'hésitez pas à vous rendre le 19 juin entre 9h et 13h à la Cité Audacieuse et pensez à vous inscrire auparavant sur le site de la CIAMS. Le 23 juin, aura lieu un débat sur les violences sexuelles, renversant le scénario, avec la diffusion d'un film Nikki. C'est un film de Céline Salette sur Nikki de Saint-Phal. Ça se passe à la salle des fêtes de la mairie du 3e arrondissement, 2 rue Eugène Spuller, au métro Arts et Métiers. Y interviendront Manu Piette et Shirley Wyrdon pour animer le débat qui suivra la projection de ce film. Mardi 24 juin, de 9h à 17h à Saint-Ouen, dans la salle Barbara 5 rue des Écoles, aura lieu un débat sur la lutte contre les violences sexuelles subies dans l'enfance et leurs alliés, organisé par Move Enfants, un mouvement réunissant les survivantes et survivants de violences subies dans l'enfance et leurs alliés. Cette association a été membre de la CIVIS, la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles sur les enfants. Cette journée réunira des spécialistes, avocats, magistrats, psychologues, psychiatres, travailleurs sociaux, ainsi que des personnes ayant vécu ces violences, et tous ces participants engagés au sein d'associations, d'institutions ou à titre individuel se réuniront pour faire de la lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants un véritable enjeu démocratique. Vous pouvez vous inscrire en écrivant un mail à contact@moveenfant.fr ou par téléphone au 06 10 95 05 34. Enfin, le jeudi 26 juin de 9h à 17h se tiendra un colloque organisé par l'ANR Prodige et l'Amphi du Mage, recruté à l'aveugle, point d'interrogation. Cette première session s'interrogera sur les effets du paravent lors des concours. Maxime Parodi, sociologue, et Hélène Périvier, responsable du programme Présage à Sciences Po, présenteront les principaux résultats de leur enquête. Dans une deuxième session, on abordera le genre du recrutement. Et enfin, la dernière session se posera cette question : que cache le paravent ? Sur tous les enjeux de non-discrimination à l'embauche.
Maintenant, je vais vous lire une déclaration de la majorité municipale parue dans le dernier journal de la ville de Montreuil en Seine-Saint-Denis.
Maintenant, je vais vous parler. Vous lire une déclaration de la majorité municipale parue dans le dernier journal de la ville de Montreuil en Seine-Saint-Denis. Face à l'horreur, la France doit porter les droits des Palestiniennes et des Palestiniens et reconnaître pleinement l'État de Palestine aux côtés de l'État d'Israël, seule base d'une paix juste et durable. En 2025, nous célébrons les 30 ans de la coopération décentralisée franco-palestinienne, un anniversaire qui aurait dû être celui de l'espoir renouvelé, celui d'un partenariat né dans le sillage des accords d'Oslo lorsqu'on croyait à une paix rapide, à la reconnaissance mutuelle, à deux États vivants, côte à côte, en sécurité. Dans le silence assourdissant de la communauté internationale, le gouvernement israélien dirigé par Benjamin Netanyahou poursuit son entreprise de destruction totale de la bande de Gaza, sans entrave, sans sanction, et au mépris des voix qui s'élèvent en Israël, où les manifestations pour la fin de la guerre se multiplient. La volonté de Benjamin Netanyahou de prendre le contrôle total de la bande de Gaza après avoir bloqué l'aide humanitaire plonge la population civile dans une situation d'une cruauté extrême. Des milliers de nourrissons sont menacés de mort et des centaines de milliers de Palestiniennes et de Palestiniens, dont plus de la moitié sont des mineurs, risquent de succomber dans les jours et semaines qui viennent. Affamés, privés d'eau, privés de soins et attaquer une population à une telle échelle, c'est l'horreur. N'en déplaise à Emmanuel Macron qui se refuse toujours à qualifier la situation sans ambiguïté, ces actes correspondent précisément à la définition du crime de génocide selon la Convention des Nations Unies. Celui-ci doit immédiatement cesser et tout doit être fait pour mettre un terme au massacre du peuple palestinien. Nous appelons à un cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza et à la levée complète du blocus pour permettre l'acheminement sans entrave de l'aide humanitaire. Nous appelons à la reprise des négociations pour arrêter les massacres, faire respecter les droits des Palestiniens et des Palestiniennes et libérer les otages israéliens. Notre engagement municipal n'est pas symbolique, il est profondément politique. Il trace la frontière frontière entre l'indifférence et la dignité, en refusant la déshumanisation et le tri entre les morts acceptables et ceux qui dérangent. Aucune paix ne pourra émerger sans justice. Aucune justice ne pourra exister sans reconnaissance. Et aucun avenir n'est possible sans que le peuple palestinien puisse vivre libre, digne et souverain. Notre silence serait une abdication. Notre parole, un devoir. Face au génocide en cours et à la violence déchaînée par Benjamin Netanyahou, la France doit agir immédiatement pour empêcher la destruction totale du peuple palestinien et faire respecter son droit à l'autodétermination, signé l'ensemble des groupes de la majorité de Montreuil, Montreuil en Seine-Saint-Denis.
Jusqu'au 22 juin, à la bibliothèque universitaire de Belleveille à Angers, les L sont dans la rue. Révolte, subversion, émancipation. Plus de 300 œuvres et documents divers pour couvrir une histoire vaste de la Révolution française à nos jours. Elle raconte des histoires oubliées et permet de remettre les femmes au centre de la mémoire des luttes. Et enfin, jusqu'au 3 août, à Paris, au musée Jacques-Marc-André, 18 boulevard Haussmann, vous pourrez découvrir les peintures d'Artemisia Gentileschi, une figure majeure de l'art baroque et du mouvement caravagesque. Voilà, une très belle peinture. Deux petits films maintenant qui vont se passer le mercredi 25 juin à Paris, à la Cité Audacieuse, 9 rue de Vaugirard. La projection débat organisée par le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir vous fera découvrir Trois femmes afghanes, des résistances en exil, d'un film réalisé par Ayemia Ajan et Annie Williams. Et un autre film est en salle depuis le 11 juin, il s'appelle Les mots qu'elles eurent un jour, et il a été réalisé par Raphaël Pilosio. Ce réalisateur donne la parole à des militantes algériennes à leur sortie de prison en France, plus de 50 ans après, alors que la bande-son a disparu, Yann Lemasson part à la recherche de ses militantes. Notre histoire est importante et nous la partageons. Nous vous disons au revoir, merci de nous écouter et de nous retrouver mardi prochain pour écouter les interviews des animatrices et des femmes qui participent aux ateliers de l'association Fabriquons la solidarité à Rosny-sous-Bois. Bonne semaine à toutes et à tous et à bientôt. Merci Catherine, merci Marie-Joseph.
Merci Elisabeth.
Qui est déjà partie.
Oui, Sandra est partie, oui.
Vous apportez beaucoup d'éclairage.
Oui.
Bonne journée à toutes et à tous, bonne semaine, à bientôt. Et
l'une de l'autre ignorée, on s'est connue, on s'est regardée. On s'est parlé, on a chanté, avec l'envie de se raconter nos histoires et toutes nos idées. Mais tout ça s'était vite plié, le répertoire était pas épais. Où sont passées les héroïnes de la lutte et du quotidien? D'elles il ne reste presque rien. Hé hé ha, hé hé ha, hé hé ha, hé hé ha. Dans les champs, lorsqu'on est présente, on est souvent seul et fragile. On se lamente dans une attente, soit repoussante ou bien sublime, objet sexuel ou bien victime. Dans cet idéal libertaire, nous sommes bonnes au linge à étendre. On ne veut plus être de ménagères, de la chair tendre à défendre. On ne veut plus se laisser taire. Hé hé ha, hé 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 ha. Hé hé ha, hé 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 ha. Comment faire une révolution quand dans nos imaginations, dans tous ces rôles bien genrés, nous nous retrouvons confinés et nos idées polluées. Quand on ne trouve dans nos chansons ni de guerrières ni d'héroïnes, et on vous parle même pas d'Aiguine, tout ce qui nous ferait rêver gamine, qui ferait rêver les frangines. Et si les chants qui nous ressemblent, on les écrivait tout ensemble, des chants qui racontent nos histoires et disent nos rages et nos espoirs, donnent du courage et du pouvoir. Hé hé ha, hé 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 ha, hé hé ha, hé 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 ha. Si on se retrouvait frangine, ça nous ferait gagner du temps. Unissant nos voix, j'imagine qu'on en dirait 20 fois autant, qu'on en dirait 20 fois autant, et qu'on ferait changer les choses, et je suppose aussi les gens, et qu'on ferait changer les choses. Allez, on ose, il est grand temps. Allez, on ose, il est grand temps.